You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Comme chaque mardi, place à l'actualité française. Et pour en parler avec nous, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Émile, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors à la une, les chiffres de la canicule qui a frappé la France en juin et juillet dernier.
Oui, cette canicule a entraîné une surmortalité selon un rapport du ministère de la Santé dont les résultats ont été communiqués par Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Par rapport aux dernières années, il y a eu en juin et juillet de cette année une surmortalité de 1500 personnes, 1500 morts de plus que la moyenne des années précédentes, des chiffres à mettre en parallèle avec les deux vagues de canicule qui ont vu le thermomètre dépasser les 40 degrés un peu partout sur le territoire. Il y a eu deux vagues de canicule, une fin juin, début juillet, à cheval sur juin-juillet, et l'autre trois semaines plus tard, fin juillet. Des records de chaleur absolus ont été enregistrés, jusqu'à 46 degrés relevés dans le département de l'Hérault, dans le sud de la France. 46 degrés, hein, c'est la plus forte température jamais enregistrée sur le territoire français. À Paris, le thermomètre a atteint 42,6 degrés. Là aussi, c'est un record. Agnès Buzyn a détaillé tous ces chiffres, et pour la surmortalité, eh bien, il y a eu 567 morts de plus durant la première vague de chaleur et 868 lors de la seconde, soit 1435 décès qui sont attribués à la canicule. Cette surmortalité, elle concerne essentiellement des personnes âgées, hein, la moitié à plus de 75 ans, mais il y a aussi, précise la ministre, des plus jeunes qui ont été impactés. Une dizaine de personnes seraient mortes également sur leur lieu de travail. Il s'agirait, selon le ministère, de personnes travaillant en extérieur, tous les travailleurs du bâtiment, travaux publics étant bien entendu exposés en premier lieu quand vous avez de telles températures. Ces chiffres, une surmortalité de 2500 personnes, ils peuvent paraître impressionnants, mais on pouvait s'attendre à pire vu l'ampleur du phénomène de cette canicule. Il faut bien comprendre que durant ces deux périodes de 18 jours en tout, le thermomètre flirtait en permanence le jour avec les 40 degrés. Et là, on n'est pas en Australie. Les Français n'y sont pas habitués. Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec la canicule de 2003 qui avait pris tout le monde de court. Les ministres étaient en vacances. On était là en plein été. Le gouvernement avait tardé à réagir. Il n'y avait pas eu quasiment de message de prévention. Tout le travail en amont n'avait pas été fait. Et cet été-là, de 2003, la surmortalité avait atteint le chiffre de 15 000 personnes qui étaient mortes en raison de ces très très fortes chaleurs. Et c'est depuis cet épisode de 2003 que toute une série de mesures, protocoles, messages de prévention ont été mis en place par les autorités publiques. Une prévention notamment envers les personnes âgées, que ce soit dans les maisons de retraite ou envers les personnes isolées. Nous avons réussi, a conclu la ministre, grâce à ces messages que la population a bien intégré, a diminué d'un facteur de 10 la mortalité de 2003.
Autre dossier abordé par la ministre de la Santé, celui des urgences hospitalières.
750 millions vont être débloqués d'ici 2022 pour répondre autant que possible à cette crise des services des urgences. Il y a un mouvement de grève qui a été lancé il y a plusieurs mois, en mars dernier, et qui a pris de l'ampleur. Quasiment tous les grands hôpitaux de France sont concernés. Le personnel des urgences est à bout. Des horaires, des gardes où vous vous retrouvez à enchaîner les jours sans dormir, avec toujours plus de patients qui arrivent. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'amplifie véritablement depuis quelques années. Et face à la pénurie ou à la difficulté de trouver un médecin, un spécialiste en ville, avec des délais d'attente de plusieurs semaines, parfois, eh bien, les citoyens vont bien souvent directement au service des urgences qui a perdu sa vocation première. Le malaise est latent. Le gouvernement a donc réagi. Enfin, Agnès Buzyn, la ministre, a dévoilé ce qu'elle appelle un pacte de refondation avec toute une série de mesures, à la fois pour désengorger les services des urgences, mais aussi pour redonner au personnel l'envie de continuer ce métier. L'idée forte, c'est de créer des passerelles entre la médecine de ville et les services des urgences, avec la mise en place de ce que la ministre appelle un service distant universel qui devra, dans les 24 heures, être en mesure d'apporter à minima un conseil médical, une orientation médicale, d'avoir la possibilité de prendre un rendez-vous avec un médecin généraliste dans les 24 heures. Voilà ce que prévoit la ministre, ce qu'elle a annoncé. Dans le même esprit, les prérogatives des kinésithérapeutes, des pharmaciens pourraient être élargies avec des patients qui pourraient être envoyés chez les kinés et les pharmaciens plutôt que d'aller attendre des heures et des heures dans les couloirs d'un service d'urgence. Alors cette nouvelle philosophie, elle demande de l'argent, des millions, des centaines de millions, mais elle doit pouvoir être mise en place, facilitée par la technologie d'aujourd'hui, le numérique, Internet, hein, les prises de rendez-vous en ligne. Tout cela n'est pas encore un réflexe pour tout le monde, mais c'est un moyen de gagner du temps et de ne pas aller forcément directement aux urgences. Voilà pour les annonces, les grandes lignes d'Agnès Buzyn. Quant aux réactions du monde hospitalier après ces annonces, eh bien, elles sont plutôt mitigées. Le président du collectif Interurgence estime que dans ces annonces, eh bien, on ne voit aucune revalorisation des métiers de soignants. Il y a un déni des professions paramédicales, fustige Hugo Huron. Et de fait, s'il est question d'un service accessible 24 heures sur 24 pour obtenir un conseil, un service, on l'imagine en ligne ou au téléphone dans un premier temps, le gouvernement, dans ce plan dit de refondation, eh bien, ne prévoit absolument pas d'augmenter le nombre de lits dans les hôpitaux ou d'augmenter le personnel hospitalier. Or, le problème majeur aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de place pour accueillir les malades. Il y a eu récemment quelques épisodes sinistres de personnes oubliées dans un état très critique sur un brancard dans tel ou tel couloir d'hôpital pendant plus de 24 heures. Les réactions, encore, la CGT se montre très déçue, côté syndical. Hein, la centrale parle d'annonces décevantes et a appelé à manifester dès ce mercredi. Le mouvement de protestation des urgentistes, il a commencé à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, en mars. Aujourd'hui, selon le collectif Interurgence, ce sont 249 sites qui sont en grève dans toute la France. Alors, cela ne veut pas dire que les urgences et les soins ne sont plus assurés. Hein. Les grévistes ont expliqué qu'ils continueront toujours, bien entendu, à soigner les malades, c'est leur métier, mais tout en le faisant, eh bien, ils multiplient les actions. Les grévistes qui réclament une revalorisation salariale conséquente, des moyens supplémentaires, des effectifs supplémentaires et un moratoire donc sur la fermeture des lits, car depuis des années, on ferme des lits, oui, dans les hôpitaux. L'objectif comptable et de réduire au maximum les hospitalisations longues hein, du côté du gouvernement. Les techniques d'aujourd'hui le permettent. On opère de plus en plus en ambulatoire. Vous arrivez le matin, vous êtes opéré. Dans la journée, vous pouvez rentrer chez vous le soir. Mais on ne peut pas appliquer cette logique à toutes les pathologies, à toutes les situations. Il y a de l'humain derrière tout cela. Il y a un patient qui n'est pas qu'un numéro. Et c'est aussi ce que tente de rappeler au gouvernement les urgentistes à travers leur mouvement.
Émile, merci pour ce point sur l'actualité française et on se retrouve la semaine prochaine.
Merci, à bientôt.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.